Victor Hugo, c'est un grand écrivain, c'est un grand dessinateur, et on sait moins que c'est aussi un grand décorateur.
Se mêle de la spiritualité, se mêle évidemment de sentiments esthétiques, quelque chose de romantique, enfin quelque chose de multiforme.
Se sent militant de montrer l'âge d'or ou les âges d'or de cette civilisation islamique.
J'ai bien aimé l'histoire et j'aime bien les châteaux, les murs et les fresques.
Il y a beaucoup de culture.
Oui, c'est ma première visite, c'était très bien.
Va mon ami, va, la lune se lève.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin et comme à chaque fois dans cette émission, je pars à la rencontre de ceux qui font l'actualité culturelle. Conservateurs, artistes, mécènes, passionnés et amateurs, ils nous parlent tous de leurs événements, leurs expositions et leurs émotions. Cette semaine, direction le musée des impressionnismes de Giverny pour y découvrir l'œuvre d'un peintre heureux. L'exposition à l'affiche en ce moment, présentée jusqu'au 5 novembre 2017, est consacrée à Henri Manguin, peintre du mouvement fauve encore mal connu et dont les œuvres se trouvent en majorité en main privée. Manguin, la volupté de la couleur, titre l'exposition. On plonge en effet dans un grand bain de bleu, de jaune, de violet et de blanc scintillant. Une exposition qui a assurément un grand pouvoir de séduction et dont l'objectif est aussi de montrer les filiations et les ouvertures que le mouvement impressionniste a fait naître après lui. Né en 1874 à Paris et mort en 1949 à Saint-Tropez, Henri Manguin est d'abord un élève de Gustave Moreau avant de faire partie de l'aventure fauve en 1904-1905. Grand admirateur de Van Gogh et de Cézanne, on retrouve dans son travail de multiples inspirations de ses contemporains, au premier rang desquels Henri Matisse, dont il est l'ami et aux côtés duquel il peint à Saint-Tropez. Encore peu étudiée et de ce fait assez mal comprise, l'œuvre d'Henri Manguin est à regarder plus en profondeur, pour tenter de mieux comprendre quel rôle et quelle place elle a tenu au milieu des avant-gardes de son époque. C'est ce que permet l'exposition actuelle « Manguin, la volupté de la couleur » au musée des impressionnismes de Giverny, comme l'explique Marina Ferretti, commissaire et directrice scientifique de l'exposition.
On connaît très mal l'œuvre de Manguin pour une très bonne raison, c'est qu'elle n'est pas visible en général. Les collections publiques sont très pauvres en œuvre de Manguin. La plupart de ses tableaux, et notamment de ses tableaux importants peints pendant les années fauves, sont conservés dans des collections particulières. Et donc, on n'a pas les éléments, je dirais, pour juger de son œuvre et pour mieux la connaître. C'est un peintre qui a eu un immense succès avant-guerre. Qui a été collectionné avec beaucoup d'assiduité par Léon Lozer certainement, par les Couturats. Il a été découvert très tôt par des grands collectionneurs comme Lestin, les Tchoukine ou les Morozov, avant de retomber dans un certain oubli après-guerre. Et donc, c'est un petit peu l'espoir, je dirais, et l'objectif de cette exposition, eh bien, c'est de montrer ces œuvres pour permettre peut-être de réévaluer une œuvre qui, moi, me paraît vraiment importante, de qualité. C'est un peintre qui a été remarqué par beaucoup de grands critiques aussi, hein, de grands marchands, par Vollard notamment, de grands critiques et notamment Apollinaire, qui l'appelait le peintre voluptueux, d'où le titre de l'exposition La volupté de la couleur, et qui a retenu tellement l'attention avant de disparaître un petit peu dans l'oubli.
Ici, on peut découvrir dans cette exposition des œuvres qu'on n'a jamais vues finalement, donc c'est aussi l'intérêt de cette exposition. Et on est face à l'aventure fauve. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le courant fauviste, puisque c'est autour justement de ces années 1900, plus particulièrement en 1905, Henri Manguin fait vraiment partie de ce groupe d'artistes fauves.
Oui, complètement. Alors le fauvisme est un mouvement artistique très bref qui apparaît au public en 1905, mais qui est préparé les années qui précèdent et qui va se poursuivre très brièvement jusqu'en 1907. C'est un mouvement qui apparaît pour beaucoup comme l'aboutissement de tout un mouvement de libération de la couleur qui a été inauguré par les impressionnistes et puis continué par les post-impressionnistes et notamment Cézanne aussi. Donc c'est un mouvement qui vraiment apparaît comme le dernier sursaut, je dirais, de la peinture du 19e, avant la multiplication des avant-gardes du 20e siècle. Il apparaît aussi comme la première de ces avant-gardes du 20e siècle. Hein. Au fauvisme va succéder le cubisme, ensuite l'abstraction, après-guerre ce sera Dada, le surréalisme, enfin les avant-gardes vont se succéder d'une manière très 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 rapide.
Chez Henri Manguin, on retrouve beaucoup de thématiques qu'on a l'habitude de voir parmi ses contemporains. On pense à Henri Matisse, Marquet, Edmond Cros, vous en avez parlé, Gauguin également. Et puis, il était surtout très admiratif de Cézanne.
Il était extrêmement admiratif de Cézanne. Il le découvre très tôt, à une époque où Cézanne n'est pas encore reconnu. Cézanne va bénéficier d'une reconnaissance vraiment tardive. Il le découvre quand il est jeune étudiant à l'École des Beaux-Arts, en 1895, à la Galerie Vollard. Vollard organise pour inaugurer ses nouveaux locaux une grande exposition monographique consacrée à Cézanne. Et à partir de là, c'est le moment où Cézanne commence à vraiment émerger, je dirais, aux yeux, bien sûr, du public et du marché, mais plus encore aux yeux des jeunes artistes. Et tous ces jeunes artistes, qu'ils soient futurs fauves, futurs cubistes, futurs peintres abstraits, regardent Cézanne de très près et il va vraiment dominer, je dirais, le tournant du siècle en termes d'influence sur la jeune génération. Manguin sera extrêmement fidèle à cette admiration qui est d'ailleurs réveillée. Cézanne expose à plusieurs reprises à partir de 1900, il commence vraiment à devenir célèbre. Il meurt en 1906, 1907 on lui consacre l'exposition posthume bien sûr, et il apparaît vraiment comme le maître absolu, le maître d'Aix comme on l'appelle, et tout le monde continue à le regarder, et en particulier Manguin, qui ne reniera jamais cette paternité. Paternité est un mot peut-être trop fort. Qu'il l'ait influencé, qu'il l'ait regardé de près, c'est évident, mais il a regardé aussi beaucoup d'autres peintres et beaucoup d'autres modèles. Vraiment, Cézanne restera la pierre de touche, je pense, en termes de peinture et de modernité aux yeux de Manguin, parmi beaucoup d'autres.
Ce qui est intéressant, c'est que Manguin est un peu au croisement de différentes manières de peindre de ses contemporains. Vous dites qu'on retrouve chez lui un peu de Matisse, un peu de Gauguin, un peu de Marquet. Voilà, donc il s'est nourri aussi de beaucoup de ses contemporains. Mais qu'est-ce qui fait la caractéristique de Manguin finalement par rapport aux autres ? Est-ce qu'on peut détacher un élément en particulier ?
Alors, d'abord, je pense qu'ils s'inspirent tous un peu des mêmes sources. Il faut rappeler que le maître à l'École des Beaux-Arts, Manguin était dans l'atelier de Gustave Moreau, qui certes a une thématique radicalement différente de celle de Manguin, mais qui est lui aussi très intéressé par la couleur, et notamment un très très grand aquarelliste. Et ce qui, je dirais, particularise Manguin au milieu de tous ces jeunes gens qui vont tous un petit peu dans la même direction, je pense que c'est cette sensualité qu'a repéré très justement Apollinaire en disant « c'est le peintre voluptueux ». Eh bien, il y a ce goût pour le nu, bien sûr, pour le nu en plein air, le nu en scène d'intérieur. Il y a cette célébration de la nature aussi, de cette harmonie de l'homme et de la nature, cette recherche d'un... Enfin, c'est une peinture tellement hédoniste, je pense. C'est peut-être aussi pour ça qu'après-guerre, eh bien, il était un petit peu démodé. Parce qu'on ne croyait plus beaucoup à cet univers-là après tout ce qui s'était passé.
Oui, Manguin ne s'est pas renouvelé finalement après-guerre.
Non, enfin, il s'est sûrement, il a évolué, mais il ne s'est pas... Non, par exemple, Braque renonce très vite au fauvisme après une merveilleuse période fauve pour se diriger dans les recherches cubistes. Non, il ne s'est pas... Beaucoup d'ailleurs d'entre eux ne vont poursuivre dans une voie personnelle, mais sans vraiment se renouveler de manière très radicale.
Alors, une dernière question. Peut-être un tableau à voir absolument ici, qui est vraiment caractéristique de l'œuvre de Manguin et qui va nous séduire forcément.
Alors, ils sont très nombreux ceux que j'ai envie de vous parler, mais je vais choisir les gravures prêtées par la Fondation Thyssen-Bornemisza. C'est un merveilleux tableau parce que, à mon avis, tout Manguin est là, à la fois dans la thématique, à la fois dans la maîtrise de la construction du tableau, dans la maîtrise aussi des accords chromatiques. Là, nous sommes vraiment dans une symphonie de couleurs absolument éblouissante, à mon avis. Et c'est peut-être un des tableaux aussi où il se montre le plus précurseur, le plus original aussi par rapport à ses amis fauves et notamment par rapport à Matisse, parce que c'est ce thème lié à l'odalisque, ben il est un des premiers à les peindre et c'est une thématique qui aura un très bel avenir.
Alors en tout cas, on a l'impression qu'Henri Manguin était un homme heureux. Hein. L'exposition débute avec son autoportrait qui montre un très bel homme qui a l'air sûr de lui et disons vraiment un homme heureux. Voilà. Et d'ailleurs, il peint avec énormément de vivacité, d'énergie et de couleurs. Et le regarder nous procure aussi évidemment beaucoup de plaisir.
Oui, c'est vraiment, c'est très juste ce que vous dites, c'est l'œuvre d'un homme heureux et d'un homme qui a eu un succès très rapide, tout jeune, repéré par, je dirais, les meilleurs marchands, les meilleurs collectionneurs et les meilleurs critiques de son époque.
C'était pas le cas de tous les avant-gardes.
Non, pas du tout.
C'était du mal à se. Non,
Il a eu vraiment cette chance. Il a eu une période vraiment très très avant-guerre, vraiment très très favorable. Et c'est la peinture d'un homme heureux. C'est aussi la peinture d'un homme qui célèbre des joies simples, hein, les joies regardées en beau paysage, les joies familiales, la sensualité, enfin, ce sont des joies simples. Et c'est, je pense qu'effectivement, ce bonheur, cet état d'esprit positif, hédoniste, se ressent très fort devant ces œuvres.
Merci beaucoup, Marina Ferretti. Merci.
L'exposition Manguin, la volupté de la couleur, est visible jusqu'au 5 novembre au Musée des impressionnismes de Giverny. Vous l'aurez compris, il s'agit là, pour Henri Manguin et ses contemporains, d'étudier la couleur pure, et la découverte de la Méditerranée en particulier sera pour beaucoup d'avant-garde un choc esthétique permettant une grande liberté de peindre. Le groupe d'artistes dont fait partie Henri Manguin et d'abord appelés les évadés de l'atelier de Moreau, avant de devenir les fauves, suite aux commentaires du critique Louis Vauxel, au cours du salon d'automne de 1905, qui écrit ceci. Salle archi-claire, des oseurs, des outranciers, et c'est tout un lot d'indépendants, Marquet et compagnie, Manguin, progrès énorme, indépendant sorti des pochades, et qui marche résolument vers le grand tableau. Trop de relents de Cézanne encore, mais la griffe d'une puissante personnalité toutefois. Au centre de la salle, un torse d'enfant et un petit buste en marbre d'Albert Marque qui modèle avec une science délicate. La candeur de ces bustes surprend au milieu de l'orgie de ton pur. Donatello chez les fauves. Et voilà, le groupe Fauve était né. Attardez-vous dans l'exposition de Giverny, justement, devant les tableaux de Manguin présentés à cette fameuse exposition du Salon d'automne de 1905 qui fit grincer des dents nombre de regardeurs. Mais regardez avec quelle sensuelle volupté Manguin peint sa femme, enceinte, touchante, irradiante. Jeanne est son modèle de prédilection. Jeanne cousant, en chemise, prenant la pose, en baigneuse ou devant sa fenêtre, sur le balcon de la Villa Demière à Saint-Tropez. Un modèle qui cristallise tout son amour, celui de sa famille et de la couleur. L'exposition de Giverny sera ensuite présentée au Musée de l'Ermitage à Lausanne du 22 juin au 28 octobre 2018 avec une attention particulière portée aux années et aux amitiés suisses du peintre. Une autre aventure donc, après celle des fauves. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. C'était Julie Chaise-Martin dans Art Interview. et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte d'une exposition ou d'un événement artistique. Très bonne écoute de nos programmes.